Cet épisode donne la parole à un de mes amis. L'enregistrer, c'était comme immortaliser les longues discussions qu'on a tous les deux. En le réécoutant, j'ai trouvé notre conversation très riche, difficile à faire tenir sur 45 minutes, tant elle est remplie de sujets encore jamais abordés dans Compassion. Avec le témoignant de l'épisode 4, on s'est d'abord insurgé face au manque de diffusion des ressources de la lutte anti-validisme. Un manque qui empêche de penser la condition sociale des personnes handicapées et donc de contribuer à l'améliorer. On a aussi parlé de précarité, de l'image qu'on a de soi-même quand on fait partie d'un groupe de population stigmatisée. Et puis, on a discuté de violence médicale, dans tout ce qu'elle peut recouvrir de plus révoltant. Abus de faiblesse, maltraitance, et même expérimentation non consentie. On a beaucoup discuté, vraiment beaucoup, mais on a aussi rigolé, pour pas pleurer, quand on s'est rendu compte qu'un jour, après tout ce qu'il avait vécu, une personne lui a dit « Alors comme ça, monsieur est privilégié. »
J'ai fait des études de sociologie et tout, et on ne parle jamais de validisme. C'est quand je me vois dans une classe, les rares fois où je me vois marcher. C'est là que je me dis « Ah ouais, je marche comme ça, c'est cette image-là que je renvoie. » Et donc ça me donnait pas le droit à l'allocation, adulte handicapé. Mon compte en banque était tout le temps dans le rouge. Et c'était 3 ans, globalement 3-4 ans assez difficiles. Ça, c'est pas facile de se mettre en caleçon en fait, devant des médecins qui te regardent marcher. En fait, on te dit rien, on te dit déshabille-toi et marche.
Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Oui.
Je te demande pas une liste exhaustive d'informations, juste nous permettre de comprendre un peu plus qui tu es.
Ok.
Je pense que c'est important que les auditeurs et les auditrices sachent d'où tu parles, en fait.
Ok, donc je suis un jeune homme blanc. J'ai 26 ans. Je viens de rentrer dans la vie active depuis peu. J'ai fait des études de sociologie. D'un point de vue social, je dirais une classe moyenne plutôt, je sais pas supérieure, mais disons standard. Voilà.
Et bon, c'est en partie la raison pour laquelle tu es ici, mais tu n'en as pas parlé,
oui.
Tu as une condition de santé qui est particulière.
Oui.
Donc est-ce que tu peux nous la décrire et peut-être nous expliquer les pans de ton quotidien qui pourraient être impactés par celle-ci ?
Si je peux me permettre, je trouve ça intéressant que quand tu me demandes de me présenter, c'est pas ce qui me vient en premier, même si je suis sur un podcast qui parle du handicap et de la maladie. C'est vrai que sans même avoir fait exprès, c'est pas ce par quoi je me définirais en premier et ce par quoi je me présenterais en premier. Mais oui, c'est vrai que du coup, je suis infirme moteur cérébral, IMC, qui est un handicap plutôt répandu. C'est un handicap qui se déclare souvent soit à la naissance, soit durant la grossesse. Dans mon cas, moi, c'est lié à un choc ou un traumatisme qui a eu lieu au moment de la naissance. C'est-à-dire que mon cerveau a manqué d'oxygène pendant plusieurs minutes, ce qui crée des lésions cérébrales irréversibles et qui ensuite crée des troubles moteurs. Et moi, en l'occurrence, c'est parce que je suis né prématuré et qu'il y a eu des conditions de grossesse qui n'étaient pas tout à fait optimales pour que je me développe correctement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des troubles du développement moteur et quelques troubles cognitifs aussi. À savoir que l'infirmité motrice cérébrale est un handicap avec beaucoup de stades et de degrés. Je ne sais même pas te dire à quel degré je suis, mais voilà, c'est un degré quand même assez léger, entre guillemets. Il y a des infirmoteurs cérébrales qui sont plus atteints que moi.
D'accord, donc tu pourrais dire que ton handicap, il est considéré comme léger ?
Personnellement, moi, je trouve que oui, dans le sens où il ne me freine pas beaucoup dans ma vie quotidienne. Voilà. Pour donner plus de détails, je marche par exemple sans trop de difficultés, avec une autonomie quand même que je considère importante. Tu vois, je peux marcher pendant une heure à mon rythme. Je me déplace du coup sans problème, je peux prendre les transports en commun sans difficulté, je peux courir, je peux faire du sport. Bon, ça, c'est plutôt sur le plan moteur. Après, sur le plan cognitif, j'ai plus de difficultés, par exemple pour me repérer dans l'espace. J'ai des troubles de l'attention aussi, j'ai tendance un peu à avoir la tête en l'air. Et c'est avec le temps que je me dis que le fait que je sois IMC, ce n'est pas tout à fait étranger à ce que j'ai des sautes d'attention parfois. Et même s'il n'y a pas de diagnostic qui a été fait de manière tranchée, je pense que dans l'IMC, il y a des troubles cognitifs qui peuvent être plus ou moins importants. Et je me rends compte, en me connaissant de plus en plus avec le temps, qu'effectivement, j'ai des troubles de l'attention et de la concentration et que ça vient un peu de là. Donc, je peux avoir du mal à me concentrer. Voilà, sur le plan cognitif, c'est essentiellement ça.
C'est intéressant, je vais rebondir sur ce que tu disais précédemment. Parce que quand on a un handicap léger ou dont les délimitations sont floues parfois, je pense que c'est difficile de se catégoriser comme une personne valide ou comme une personne handicapée ou de savoir quel aspect de ta personne est lié ou non à ton handicap. Charlotte Puiseux, je ne sais pas si tu as lu son livre.
Non, mais je connais.
C'est de chair et de fer. Elle expose le fait qu'entre le handicap et la validité, on pourrait inscrire en fait ces deux phénomènes dans un continuum. On n'est jamais à 100% handicapé, on n'est jamais à 100% valide. On a juste certaines parties du corps qui sont affectées et d'autres non. Mais bon, là, après, reste à savoir lesquelles. Moi, je me demande, dans un handicap qui est considéré comme léger, qui est peu invasif du moins, et qu'on a du mal à se ranger du coup d'un côté ou de l'autre, est-ce que ça a été plus difficile pour toi de te considérer comme une personne handicapée ? Et est-ce que tu penses que tu as ce qu'on appelle du validisme intériorisé, dans le sens où tu as pu toi-même éprouver un rejet ou même une difficulté à te sentir concerné par ce groupe social ?
Non, je ne crois pas. Je définirais moi-même mon handicap comme léger. Mais par contre, à contrario, je me suis toujours, depuis mes premiers souvenirs, en fait, considéré comme une personne handicapée. Depuis toujours. Je pense qu'il n'y a pas un moment où je n'ai pas conscientisé que je n'étais pas une personne handicapée. Parce que, en fait, depuis mon enfance, je suis dans des structures spécialisées, je vois des médecins, je vois du personnel de santé. Et tout, en fait, me rappelle que, quand même, il y a des... Je fais partie, entre guillemets, de cette catégorie de la population, quoi. Oui, je pense que j'ai un handicap léger, mais je n'ai jamais eu aucune forme de rejet, ni... par rapport à mon handicap ou au fait que je sois handicapé, c'est quelque chose que j'ai toujours, en fait, j'ai même pas eu besoin de l'accepter, en fait. C'était quelque chose que la question se posait pas, quoi.
Et comment t'expliques ce fait de ne pas rattacher certaines difficultés que t'as pu avoir à ton handicap ?
Par manque d'informations, je pense aussi que les médecins dans mon cas en tout cas, ont eu une vision assez motrice en fait du handicap et assez médicale du handicap, et tout ce qui est trouble de l'attention ou trouble je sais pas si c'est de l'hyperactivité ou pas, mais c'est assez peu développé. Moi, je trouve que c'est assez peu développé. Et encore, tu vois, je t'en parle aujourd'hui, mais c'est moi qui en fais la supposition, quoi. On m'en a jamais parlé, enfin. En me renseignant un peu sur ce handicap-là, je sais que c'est lié et qu'il y a un lien de cause à effet, mais personne ne m'en a jamais parlé. C'est moi qui, en me renseignant, en regardant, me dis qu'il y a peut-être un lien. Mais c'est vrai qu'on ne m'en a jamais vraiment parlé. Et par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai suivi beaucoup de rééducation différente. Tu vois, j'ai fait beaucoup de kiné, mais pas que, de psychomotricien, d'ergothérapie et tout. Et en fait... C'est vrai que c'est des rééducations que tu suis, mais sans qu'on t'explique vraiment en quoi c'est lié à ton handicap et pourquoi tu es amené à suivre ce genre de rééducation ou pas. Et voilà, moi, j'ai, pendant 10 ans, j'ai fait de l'ergothérapie et de l'orthophonie et tout ça. J'ai vu une psychomotricienne. Et c'est vrai qu'en fait, on t'explique peu en quoi c'est lié à ton handicap. Et le jour où ça s'arrête, et où tu deviens adulte, où tu apprends à te connaître aussi... Ben là, dans mon cas personnel, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé un petit peu à réfléchir et à rattacher des traits de ma personnalité avec mon handicap.
Donc il y a des gros manquements, en fait.
Je trouve. Enfin, ouais.
Ben, au-delà, on va dire que des manques qu'il y a eu donc, dans ce parcours
de vie,
tu as dû certainement aussi subir des injustices et des violences. Et d'ailleurs, tu as témoigné sur le Instagram de Compassion à ses débuts en 2021.
Ouais, dans les premiers.
Oui, bah merci pour ta confiance.
Et pour rappel, tous les témoignages sont anonymes, enfin jusqu'à ce qu'ils arrivent ici, que tu partages un peu plus de toi. Mais est-ce que tu peux me balancer ta phrase validiste à nouveau ?
Oui, oui.
Et je précise que c'est l'occasion pour toi d'y apporter du contexte, d'expliquer peut-être ta réaction, parce qu'elle n'apparaît pas sur le compte, ou celle que tu aurais aimé avoir. Et évidemment, de nous dire pourquoi est-ce que tu estimes qu'elle est déplacée ou discriminante ou rabaissante, etc. etc.
J'étais à la fac et je m'apprêtais à passer un examen. Et je discutais avec des amis. Et au moment où je dis que je vais avoir un tiers-temps et que je pars en fait pour rejoindre ma salle de tiers-temps, une des personnes avec qui j'étais me dit « Mais comment ça, toi, tu as un tiers-temps mais t'écris plus vite que moi et t'es meilleur que moi. Comment ça, t'as un tiers-temps je sais plus exactement le terme. C'était pas t'es privilégié, mais c'est pas vraiment important, quoi. T'en as pas besoin. C'était plutôt, je crois, t'en as pas besoin. »
Moi, ce que j'ai sur Compassion, ouais, c'est monsieur est privilégié,
ouais,
ou un truc comme ça. Ouais, en tout cas, il y avait la présence de ce terme, ouais, qui, pour moi, est assez fort.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il comprenait pas pourquoi il estimait que vu que je m'en sortais plutôt bien en cours et que j'avais pas trop de, enfin, sans dire que j'étais super fort, mais ça va, quoi. Je m'en sortais bien, que j'avais pas besoin d'un tiers-temps en plus, quoi. C'était un peu abusé. Et sur le moment, j'ai pas trop réagi. Parce que je voulais me concentrer sur mon examen, que c'est difficile de réagir face à ça, quand c'est quelqu'un en plus qui est proche de toi, que j'étais un peu désabusé, et que franchement, j'avais sur le moment autre chose à penser que de refaire l'éducation de cette personne, entre guillemets, quoi. Et non, mais par contre, ce qui est important, ce qui est assez symptomatique, c'est que tu vois, cette phrase-là, elle est venue d'un élève. Mais elle vient en fait tellement aussi des profs et du personnel de l'éducation, des profs qui sont pas du tout aussi informés sur le sujet. Donc tu vois que ça vient d'un élève, moi je trouve ça, on peut leur expliquer, on peut dire il y a une certaine, j'ai un besoin d'avoir du temps en plus pour telle ou telle raison, mais voilà, ce qui est difficile, c'est que ça se traduit aussi dans d'autres, avec des profs, ou le fait d'avoir un tiers-temps et d'avoir un ordinateur, ça peut paraître anodin, mais à la fac, c'est un combat permanent. Moi, j'ai fait 50 facs, ça n'a jamais été anodin.
Pour rappel, la définition du tiers-temps,
c'est vrai.
Si tu veux la donner.
Oui. En fait, c'est pour des personnes qui ont de la lenteur, qui peut être liée à plein de choses. Hein. On a le droit d'avoir un tiers du temps en plus de l'épreuve pour composer. C'est souvent, en fait, on parle souvent de tiers-temps. Le mi-temps existe aussi, c'est plus rare, c'est pour les handicaps plus importants. Généralement, c'est un tiers-temps, donc on bénéficie d'un tiers du temps en plus de l'épreuve globale pour composer.
Dans l'épisode précédent de Compassion, l'invitée, elle avait étudié en fac de droit et elle est revenue sur tous les obstacles qu'elle a dû traverser pour arriver à ce bac plus 5, des milliers de raisons en fait d'être découragée que je pense que tu as dû traverser aussi. Et moi d'ailleurs, quand à l'époque tu avais fait cette publication, j'avais répondu « Avec tant de privilèges, on se demande bien pourquoi seulement 1,64% des personnes handicapées est scolarisée dans l'enseignement supérieur.
»
ça reste ton cas. J'ai pas de chiffres plus récents, ils sont à la hausse, mais encore loin d'être suffisants. Et je voulais savoir, en fait, grâce à quelles ressources tu penses avoir réussi à te battre, toi, dans un système scolaire français encore bien loin de proposer une inclusion digne de ce nom. Est-ce qu'on est tous et toutes égaux face à cette lutte permanente ?
Je pense que non, bien évidemment que non. Parce que c'est ce que je disais au début, c'est que, entre guillemets, moi, mes obstacles à franchir, ils sont déjà importants, mais je pense qu'ils sont bien moindres par rapport à ce que d'autres personnes doivent franchir, d'autres personnes handicapées doivent franchir pour faire des études. Bien sûr qu'on n'est pas tous égaux, et moi, si j'ai pu y arriver, c'est que globalement, je rentrais un peu dans le système. Il y a eu quelques cas où il a fallu un peu se battre, mais dans la majeure partie du temps, je ne posais pas trop de problèmes.
Bon, je ne vais pas m'attarder sur les cours, parce qu'on en a déjà pas mal discuté dans le cadre de ta citation et sur Compassion dans les précédents épisodes. Mais en tout cas, dans la phrase que tu as citée, il y a la notion qui m'a interpellée, c'est pour ça que je t'ai amenée à corriger un peu ta phrase, c'est celle du privilège. un privilège, c'est un avantage qu'un individu aurait par rapport à un autre, un droit particulier, je dirais.
C'est le cas, pour le coup, c'est un droit particulier, mais est-ce que c'est forcément un privilège ? Non. Mais...
C'est sacrément ironique, je trouve, dans ta situation. Mais en tout cas, communément, cette notion de privilège, elle a été beaucoup utilisée dans le cadre de l'aisance financière. Mmh. Et moi, il y a quelque chose dont je ne parle pas beaucoup dans Compassion et dont j'aimerais vraiment beaucoup parler, ce sont des questions de conditions sociales. Et peut-être de précarité. Parce que vivre avec un handicap, c'est devoir assumer quantité de dépenses supplémentaires pour pallier le manque d'accessibilité de la société. On a pu traiter ces sujets-là. Il y a le panorama de la DRES, donc la Direction de Recherche des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 2023.
Okay.
Concernant le handicap, en fait, c'est un énorme document pour la faire moins barbante, okay, avec plein de chiffres, okay, qui sortent tous les ans. Dans ce document-là de cette année, on sait que plus de 25% des personnes handicapées de 15 à 59 ans sont pauvres,
okay,
contre 14% de la population qui n'est pas handicapée.
Et 25%.
25%, okay, c'est un quart. Donc leur niveau de vie est donc forcément bien inférieur à celui des personnes valides. Et évidemment, plus les limitations sont importantes et plus l'écart est prononcé, okay, ça paraît logique. Est-ce que tu as rencontré des difficultés financières ?
Oui, mais parce que normalement, lorsqu'on est reconnu comme handicapé par la NDPH, on a le droit en fait à une allocation, l'allocation adulte handicapé, qui tourne autour de 830-840 euros. Je n'ai pas le montant exact, mais en gros, c'est ça. Et moi, en fait, j'ai eu des difficultés parce que j'ai jamais réussi à toucher cette allocation, alors même que durant mon enfance et jusqu'à mes 20 ans, j'avais tout ce qu'il faut, j'étais reconnu comme étant handicapé par la MDPH, j'avais une carte d'invalidité à hauteur de 80% de mes 0 à 20 ans, quoi. Et ce qui était assez impressionnant, c'est qu'à l'anniversaire de mes 20 ans, l'âge auquel on peut prétendre à toucher l'AH, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit c'est bon, il faut renouveler tes droits. Et du coup, moi j'étais un peu halluciné en fait, de devoir... renouveler mes droits, mais bon, je pensais que jusqu'ici, ça m'avait posé aucun problème, ça poserait pas de problème. Donc j'ai monté tout un dossier assez compliqué. Déjà, on peut le dire, c'est que monter un dossier MDPH, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir les codes, il faut savoir dire, il faut aller toquer aux bonnes portes, aller voir... Moi, c'est ce qui m'a fait peut-être défaut, c'est aller voir les bons médecins, savoir les personnes qui... En fait, on a l'impression de devoir défendre son cas, quoi. Et bon, donc moi, j'ai essayé tant bien que mal de faire ce dossier... Et près d'un an et demi après que j'ai déposé le dossier, donc il y a un délai quand même déjà qu'il faut encaisser, eh bien, on m'a refusé, en fait. On ne m'a pas reconnu en tant que personne handicapée. Ou je crois qu'on m'a reconnu à 30%, quoi. Et donc, ça ne me donnait pas le droit à l'allocation. Et c'est vrai que ça a été difficile parce que je comptais beaucoup sur cette allocation durant mes études. Et que, voilà, j'ai dû faire sans. Tu vois, moi, j'étais dans une fac où il y a plus de 50% des étudiants qui sont des étudiants salariés. Donc, ils travaillent, en fait, en parallèle de leurs études pour se financer. Et moi, en raison de mon handicap, j'étais incapable de prendre un boulot. Enfin, déjà, faire mes études, ça me demandait déjà beaucoup d'énergie. J'étais loin de chez moi et tout. C'était impossible que je prenne un boulot à côté, quoi. Et en fait, j'ai dû faire sans. Par exemple, c'est bête, mais le fait de ne pas avoir la carte d'invalidité, eh ben, ça te supprime aussi ton transport. C'est-à-dire qu'au début, j'avais le trajet domicile-fac, et sachant que j'habitais vraiment à ma fac était à l'opposé de chez moi, quoi, géographiquement, c'est tout à fait à l'opposé. Au début, c'était pris en compte et tout, donc j'avais un transport prévu. Et puis d'un coup.
Qui était organisé par la PAM ?
Non, pas par la PAM, mais à l'époque, c'était le STIF. Je sais plus trop ce que c'est devenu aujourd'hui, mais c'est différent, je crois, la PAM et le STIF.
C'est donc un service de l'État qui organise des transports en voiture pour aller chercher des personnes handicapées, les amener à leur lieu de travail ou d'études.
Exactement. Et en fait, ça se fait durant la scolarité, ça se fait durant les études supérieures, et ça peut même se faire durant la vie professionnelle. Mais moi, du coup, ça m'a été enlevé, quoi. Voilà. Donc,
du jour au lendemain, ça t'a été retiré.
Plus ou moins du jour au lendemain.
Et comment ça a été justifié de passer de 80 à 30, perdre 50% de handicap sans amélioration de la condition de santé ?
Mais c'est ça, c'est qu'en fait, moi, je comprenais pas parce que, en fait, au mieux, la seule évolution qu'il peut y avoir, elle est négative, quoi. Je veux dire, mon handicap, il peut pas s'améliorer, jamais. Donc en fait, il n'y a pas eu de justification, simplement. En fait, c'est ça aussi qui est assez frustrant, c'est que je suis passé devant aucune commission, tout s'est fait par courrier, tout s'est fait par dossier médical. Finalement, j'ai réussi à avoir un certificat médical de la part d'un médecin pour monter mon dossier. Mais au final, ça n'a pas, ils n'ont pas jugé ça recevable, entre guillemets, je ne sais pas quels sont leurs critères, mais ça n'a pas été recevable. Ensuite, j'ai fait un deuxième processus, parce que du coup, ça n'a pas été recevable pour que je sois reconnu à 80%, qui est, on va dire, l'échelle en fait, pour avoir la LOC. Et du coup, il y a une dérogation qui te permet, si tu es entre 50 et 70% de handicap, ils disent, si tu as un projet de vie et que tu justifies ton projet de vie, là, on peut peut-être te donner l'allocation. Donc j'ai essayé de faire ça. Pareil, ça n'a pas marché. Et tout ça pour qu'au final, ils me disent que j'ai un handicap à peu près à 30% d'invalidité, quoi.
Et en plus, non seulement tu es venu pour demander plus de droits et on t'en a retiré un.
Mais c'est ça, c'est fou. Mais exactement, c'est vrai. En fait, c'est ça. Et puis, moi, par contre, on m'a dit, on te donne une carte d'inclusion, mobilité, inclusion. Merci. Pour pas faire la queue dans la file d'attente, quoi. Franchement, en fait, j'étais tellement dégoûté.
D'ailleurs, cette carte, très honnêtement, inutilisable dans l'espace public.
Ouais, mais
je sais pas si t'as déjà essayé, mais. Tu vas pas parce que tu la montres à quelqu'un que ça va changer grand chose. Hein.
En fait, j'étais un peu sous. Je l'ai même pas accepté leur carte, quoi. J'ai dit, tant pis, quoi. Je m'en fous. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que, en fait, moi, à la base, je pensais que les 80% d'invalidité, c'était acquis, tu vois. On pouvait pas me les retirer. Et je me suis retrouvé sans rien. Si, on m'a quand même donné une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Mais ça coûte rien. En fait, ça leur coûtait rien de me la donner. Voilà, tout ça derrière, en fait, c'est des enjeux financiers, économiques. Je sais pas si je peux le dire, mais ce qui se sait aussi, c'est qu'en fonction, parce que c'est départementalisé, et en fait, en fonction des départements, t'as plus ou moins de chances d'obtenir l'allocation adulte handicapé.
Parce que MDPH, c'est les initiales, donc de maison départementale des personnes handicapées.
Ouais.
Et en général, quand une personne handicapée déménage d'un département à un autre, elle se voit recalculer ses allocations.
Ouais.
Donc, un nombre de démarches administratives déjà, tout repartir à zéro. Et son niveau de handicap est modifié en fonction de la zone géographique dans laquelle elle se trouve.
Ouais.
Et on persiste à vous dire que le handicap, c'est une condition sociale et pas une condition de santé. Et ça, c'en est la preuve ultime.
Ouais,
l'État se permet de définir une condition de santé en fonction de la zone où tu te trouves et des politiques qui y sont menées.
De la santé financière en fait, du département, parce qu'on sait en fait, qu'il y a des départements qui sont beaucoup moins regardants que d'autres pour accorder ces allocations. Enfin, moi, je sais que j'étais dans un département qui n'était pas... qui ne pouvait pas se permettre en fait, de donner autant d'allocations. Il y a des départements où ils ont plus de budget, entre guillemets, ils sont moins regardants. Donc, Donc actuellement, je ne suis pas reconnu. Comme handicapé.
Est-ce que ça aurait pu te venir à l'esprit de choisir ton lieu de vie
Non, parce que je me suis débrouillé sans, j'ai fait sans, j'ai accepté, quoi. J'ai dit, c'est pas grave, je vais faire autrement.
Est-ce que tu penses que c'est une posture que tu vas adopter, de se dire, un obstacle comme il y en a eu tant d'autres et je vais m'adapter parce que la plupart du temps, c'est moi qui m'adapte.
Je pense que ça vient de là aussi, cette faculté que j'ai à dire c'est pas grave, je vais faire autrement. C'est parce qu'en fait, je peux aussi le faire, tu vois, je peux me le permettre.
Mais comment t'as fait là, par exemple, pour subvenir à tes besoins sans argent? Si t'as envie d'en parler. Hein.
Non, mais si, ça a été galère. Il y a mon père qui m'a aidé. Je vivais franchement dans une chambre qui n'était pas terrible, qui coûtait vraiment pas cher. Et c'était 3 ans, globalement 3-4 ans assez difficiles où je savais que je devais faire hyper attention, que mon compte en banque était tout le temps dans le rouge et que physiquement en plus c'était aussi difficile parce que du coup je devais sans cesse prendre le métro, traverser toute la région parisienne pour rentrer chez moi. Donc c'est sûr, c'était 4 ans qui étaient... Ce que je trouve dur, c'est que cette aide-là, ça aurait pas été une aide de confort, tu vois. Genre, j'en avais vraiment besoin. Parce que, et même si je sais que les étudiants qui travaillent à côté, même pour des personnes valides, c'est difficile, hein. Je dis pas que c'est une condition normale. Je trouve que c'est pas normal en tant qu'étudiant de devoir travailler à côté pour financer ses études. Mais c'est d'autant plus difficile... Pour une personne handicapée. J'ai fait comme
t'as quand même dû avoir recours à la solidarité de ta famille.
Ouais.
qui ouais. est aussi une situation qui peut ouais. te mettre dans une posture qui n'est pas forcément très
ouais.
agréable.
Bah ouais, c'est clair.
D'ailleurs, dans la brochure Barbante dont je parlais tout à l'heure, il y a un autre chiffre, moi, qui m'a interpellée, et c'est 42% des personnes handicapées déclarent vivre en puisant partiellement ou intégralement dans leurs économies ou dans l'épargne de leur ménage, y compris leur père, leur mère.
Ouais. Et ça encore, c'est parce que j'avais une famille qui quand même pouvait m'aider, quoi. Tu vois, qui avait la possibilité de financer mon logement, de financer mes dépenses courantes, voilà, de payer pour moi, quoi.
Un argent qui aurait pu servir à
ouais,
autre chose en plus.
Clairement à autre chose, ouais. Et puis, mais voilà, c'est aussi pas le cas de toutes les familles, quoi.
Mais je trouve ça intéressant de discuter avec toi des services publics, parce que tu travailles, en fait, dans le secteur. Tu vas me le dire, je ne connais pas exactement l'intitulé de ton poste, ni la structure exacte dans laquelle tu travailles. Mais bon, à ton échelle, en tout cas, tu vas œuvrer à la mise en place de missions d'intérêt général, enfin, en tout cas pour répondre à des besoins collectifs.
Ouais.
Et moi, je me suis demandé si le fait d'évoluer à l'intérieur, en fait, des organes où sont prises les décisions, d'avoir une connaissance plus accrue du système, en fait, ça a amené plus de compréhension de celui-ci et peut-être à pardonner plus facilement, à être plus indulgent, ou si au contraire, tu étais d'autant plus révolté par la situation.
Alors, moi, je travaille dans une collectivité territoriale, dans une commune, où je m'occupe de la participation des habitants aux projets, notamment les projets urbains, qui sont portés par la collectivité. C'est-à-dire que si on veut aménager une place ou faire évoluer la ville, il y a une partie où on doit prendre l'avis des habitants, donc associés aux décisions de la commune. Donc ça peut être sur des projets urbains, mais ça peut être sur des choses beaucoup plus fun, comme, je sais pas, de l'animation locale ou développer des nouveaux projets. En tout cas, si les habitants veulent s'investir dans la vie de leur quartier, ça passe par mon service. Et donc on développe tout un tas de politique avec les habitants. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup, nous, on a le regard à la fois politique, c'est-à-dire des élus de la collectivité, des services de la collectivité. Donc ça rejoint un peu ce qu'on dit sur les moyens, en fait, sur les moyens financiers et humains qui peuvent être mis au service des habitants. Mais du coup, on travaille aussi avec les habitants en essayant de prendre en compte leurs besoins dans la mise en œuvre des politiques publiques de la commune. Et ça m'a permis de mieux comprendre. Après, est-ce que ça m'a permis d'être indulgent ou plus sévère? Je pense ni l'un ni l'autre. Mais effectivement, en fait, vu que c'est quelque chose, pas que je connais, mais disons que ça m'est un peu plus familier, en fait, on comprend vite que tout ça, c'est des questions budgétaires et de financement, d'argent, de ressources. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout ça, c'est territorialisé. C'est chaque département a son propre budget, a ses propres moyens, et en fonction de ça, ils essayent d'être plus ou moins regardants, plus ou moins généreux. Mais en fait, je pense que déjà, c'est un peu mal fait que tes droits, ton allocation, mais au-delà d'un problème financier, c'est ta reconnaissance. C'est assez symbolique le fait que tu sois reconnu ou pas par l'État en tant qu'handicapé, que ça repose sur des logiques budgétaires et financières, parce qu'au final, on en est là. Donc effectivement, ce qu'il faudrait, c'est qu'une fois que tu as été reconnu en tant que handicapé, ou que là, en fait, on parle de pourcentage d'invalidité, et qu'on reconnaît aussi que ton handicap n'est pas évolutif, ou en tout cas ne risque pas de s'améliorer d'un coup, et bien que ce soit conservé à vie, et qu'on ne soit plus sans cesse à devoir renouveler ses droits. Et c'est vrai que ça devrait être pris par une échelle nationale, quoi, pas à l'échelle de départements qui sont sans cesse en train de devoir composer avec leurs ressources financières. Et je pense aussi, et ça serait intéressant d'y réfléchir, sur est-ce que si des départements sont plus ou moins généreux en termes de combien d'allocations ils dépensent ou pas, enfin, combien d'allocations ils accordent ou pas, est-ce qu'ensuite l'État, en termes de dotation accordée par l'État, est-ce qu'après ils seront moins dotés ou mieux dotés? Je sais pas, mais il y a peut-être un lien aussi, ce qui pose aussi problème, quoi. C'est-à-dire que des collectivités qui seront plus généreuses, bah peut-être qu'après l'État va plus serrer la vis en mode bah on vous donne moins d'argent vu que vous distribuez à tour de bras, quoi. Ça, c'est moi qui le dis, mais bon, en tout cas, ça pourrait être intéressant.
Donc il y a une question sur quelle est ta marge de manœuvre véritable au final, si t'en payes les conséquences ou non en tant que collectivité.
Ouais,
quoi.
C'est ça, c'est ça.
Bon, bah, maintenant qu'on a un peu parlé de la question des droits, j'aimerais revenir un peu plus sur des questions de regard. Parce que, peu importe le handicap,
oui.
Le rapport aux autres, il peut être modifié. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu penses que ton handicap est un sujet ?
Je pense que bon, y a une forme de... pas de pudeur, mais disons, en fait, je pense que les gens avec qui... Et tu vois, je parle de ça même dans les groupes d'amis, hein, des nouveaux groupes d'amis que j'ai intégrés et tout, ils m'en parlent pas. Je pense qu'il y a un côté, on veut faire comme s'il était comme tout le monde et tout, donc on n'en parle pas. Et le fait qu'effectivement, moi, au travail, j'en ai pas parlé, bah, ça n'a pas ouvert de brèche, tu vois. Ils se sont pas dit, ah ouais, il y a une nécessité presque légale à en parler, tu vois.
Et toi, tu préférerais que ce soit le cas ?
De temps en temps, tu vois, j'aimerais bien que quand il y a des choses, quand je suis amené à porter des choses ou à marcher beaucoup, ou qu'on voit, je me sentirais plus à l'aise, tu vois, si on me disait, bah c'est bon, t'es pas obligé de porter tout ça, pour toi c'est galère.
En fait, je trouve que justement, on a tendance à un peu voir la situation de manière binaire en se disant, bah il y a les gens d'un côté qui font pas du tout attention, qui sont irrespectueux, ouais, ouais. Qui font des remarques tout le temps, etc. Et de l'autre, il y a ceux qui vont totalement. Bah, éviter le sujet et ouais. Faire comme si de rien n'était, ouais. Alors qu'en fait, justement, on parlait d'équilibre.
Ouais.
Et c'est vraiment cette question de ne pas faire exister le handicap à un endroit où il n'a pas lieu d'être, mais de ne pas faire comme s'il n'existait pas. Exactement. Dans les moments où il est présent et il induit des conséquences.
Ouais, en fait. C'est exactement ça. C'est savoir aussi le prendre en compte, parce que c'est quand même quelque chose qui agit dans mon quotidien et tout. Donc, faut que ce soit pris en compte à sa juste mesure, quoi.
Et parce que là, on parle du regard des autres sur toi, mais par rapport à la confiance que toi, tu vas avoir en ton corps, en tes capacités même de séduction, c'est un vrai sujet. Bon, ouais. Même quand on est une personne valide, on peut être extrêmement vulnérable dans le rapport de séduction. Mmh. Est-ce que tu penses que toi, ça augmente tes insécurités ou non, d'ailleurs ? Est-ce que ça peut te donner aussi plus une relation à ton corps qui peut être encore plus forte ? Comment est-ce que tu me décrirais aujourd'hui ton rapport à ton corps ?
Il y a quelque chose qui est marrant, c'est que moi, quand je marche, je me sens j'ai l'impression que je marche tout à fait normalement. je me dis pas je marche bizarrement. C'est quand je me vois dans une classe, les rares fois où je me vois marcher dans une classe, n'arrive pas souvent quand même, c'est là que je me dis, ah ouais, je marche comme ça, c'est cette image-là que je renvoie. Et là, il y a toujours un petit temps, où, un petit choc quand même, de dire donc, au public, quand je me déplace dans la rue ou que je vais voir des gens et tout, c'est cette image-là que je renvoie. Et sur ce moment-là, ouais, je suis assez pas complexé, mais disons, je me sens pas très bien. Mais en fait, c'est l'espace d'un instant, quoi. Après, quand je l'oublie, ça va. Je dirais pas que ça a renforcé ma confiance en moi, ni ça l'a pas ébranlé non plus.
De manière circonstancielle, elle peut être un peu bafouée,
ouais, c'est ça.
Mais globalement, dans la vie de tous les jours, c'est pas un ressenti permanent, quoi.
C'est dans des situations. C'est dans des situations où je vais pas me sentir en capacité de y arriver, tu vois, ou des trucs... ça, c'était plus quand j'étais enfant, mais quand il y avait des activités sportives ou des activités scolaires que je savais que je pouvais pas faire. Mais encore une fois, je trouve que c'était plus lié à l'enfance, tu vois, où il y avait beaucoup d'activités de groupe, d'activités physiques qu'on devait faire en commun et que moi, je restais sur le côté parce que c'était pas possible. Mais je parle d'activités physiques, ça peut être des activités manuelles parce que l'IMC, ça induit aussi des difficultés motrices, tout ce qui est... réalisation manuelle et tout, c'était impossible. Ou alors c'était moche, quoi, ce que je faisais, tu vois. Et donc, y a tout ce côté-là où j'ai vécu, en fait, mais plutôt enfant, beaucoup de situations où il y avait un vrai décalage, où tu te dis, mais comment ça se fait que les autres, ils arrivent, et puis moi, j'arrive pas. voilà, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est vrai que ça m'arrive moins, et je dirais pas que mon corps, ou le rapport à mon corps me pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, quoi.
Et dans toutes ces questions de rapport au corps, il y a aussi une notion qui revient dans les études liées au handicap, qui est celle de l'objet de soins. Mmh. Et depuis quelques années, il y a la parole qui se libère pas mal sur la maltraitance médicale. Et on explique clairement que c'est très difficile de passer d'un corps qui est un objet de soins à un corps qui pourrait être un objet de désir ou même un objet de plein d'autres choses finalement, mais qu'on est pertinemment réduit à un objet médical. Et je me demandais si toi, tu pensais que les soins que tu as pu avoir, tu disais précédemment que tu avais eu de la kiné, de l'ergo, enfin, en tout cas, nombreux et nombreuses thérapeutes autour de toi. Est-ce que tu penses que ça a pu structurer ta relation à ton corps ?
Structurer, non. Parce que, enfin, encore une fois, après, il y a beaucoup de choses qu'on ne conscientise pas vraiment, mais Non, parce que ça a jamais, ça a pas été un problème. Mais par contre, en tant qu'enfant, il y a beaucoup de situations que j'ai vécues où j'étais extrêmement mal à l'aise, quoi. Après, jusqu'à quel point j'en subis encore aujourd'hui les conséquences ou peut-être des traumatismes, ça c'est. Enfin, moi aujourd'hui, je te dirais que non. Mais par contre, à l'époque, il y a beaucoup de moments où j'avais pas envie d'aller à des consultations médicales parce que je savais que j'allais devoir me mettre à poil devant des gens. Voilà, c'est quand t'es. Et tu disais tout à l'heure la construction. Et c'est vrai que quand tu es adolescent, que ton corps évolue, se construit et tout, ça, c'est pas facile de se mettre en caleçon en fait, devant des médecins qui te regardent marcher. Quoi, et qui non seulement te regardent, mais filment ta marche. Et te filme non pas les jambes, hein, vraiment de la tête aux pieds, quoi. Et en plus après tu dois regarder les films et tout, puis ah, qu'est-ce qui marche bien, ouah, qu'est-ce qui marche pas bien et tout. Et donc c'est vrai que ça, quand t'as 15-16 ans, bon bah c'est pas, puis bon, en plus souvent il y a tes parents qui sont là aussi en train de regarder et tout, donc c'est vrai que ça, ouais, dans la construction à l'époque et dans le regard que je pouvais avoir sur mon corps à l'époque, ouais, ça a été assez difficile. Oui, quand même, entre mes 10 et mes 16 ans, c'était vraiment, enfin c'était pas des moments agréables, quoi. Ouais. Et quand t'es petit et qu'on te force, enfin qu'on te force pas, mais disons que t'as été filmé, puis après on diffuse le film, tu vois, on dit bah tiens regarde, alors comment tu trouves que tu marches et tout, puis toi bah effectivement tu vois que tu marches un peu comme ça et tout, c'est, puis il y a tout le monde qui est autour de toi, il y a tes parents, tes médecins,
voilà. On t'oblige à porter un jugement sur toi-même et à toute l'audience de faire, ouais, à faire de même,
exactement,
en fait.
Ouais, et donc toi t'es un peu soit spectateur ou au mieux t'essaies de dire ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas des moments, voilà, c'est pas des moments agréables, quoi.
Mais il pourrait y avoir des techniques un peu plus douces qui pourraient être mises en place, mais
ouais, ou aussi simplement te poser la question, tu vois, on te fait ça, on te pose pas vraiment la question si t'es d'accord ou si t'es pas d'accord, et ou je sais même pas si on le demandait à mon père, tu vois. C'est bon, bah on est dans un protocole de soins, le protocole de soins il inclut cette étape là bon bah on passe par cette étape là on te demande pas si t'es d'accord pour te mettre en slip, qu'on te mette des électrodes partout et qu'on te filme. C'est un package, quoi. T'es dans cet endroit-là, t'as signé pour tout le package, ça en fait partie, et t'es un peu. Enfin, tu vois, genre, ça aurait été bien aussi, peut-être qu'on demande et qu'on t'explique aussi ce qui va se passer, qu'on te dise, bon, bah là, on va te filmer, c'est peut-être pas agréable et tout, mais bon, c'est important que tu puisses comprendre, au juste te dire, bon, bah, en fait, on te dit rien, on te dit, déshabille-toi et marche.
Et dès ton plus jeune âge, t'aurais pu répondre, tu penses ?
Non, peut-être pas, c'est sûr, peut-être pas.
Mais ça avait du sens de le faire.
Ouais, je trouve que ça a même du sens. Et même peut-être pour mon père, tu vois, je sais pas. Il faudrait que je lui demande, est-ce qu'on lui a posé la question ? Est-ce qu'on lui a dit ? Est-ce qu'on lui a demandé ? Je suis pas sûr. Mais tu vois, peut-être qu'enfant, c'était pas possible. Mais en tout cas, tu vois, ce genre de séances-là, je les ai faites alors que j'avais aussi 16-17 ans. Ça, à cette époque-là, j'aurais été capable de comprendre. Et je pense pas que j'aurais été forcément contre. Mais c'est bien aussi. Tu te sens peut-être plus à l'aise quand au moins on t'explique les choses et qu'on part pas du principe que c'est normal, quoi. Parce que c'est pas normal.
Il y a une grande partie de la maltraitance médicale qui est totalement banalisée.
Ouais, bah voilà.
C'est des micro-agressions, en fait.
Bah ouais, ouais, c'est ça.
Tout cet entretien, tout ce podcast, le compte Instagram, tous les récits et les anecdotes personnelles qu'on raconte, en fait, c'est pour tenter de révéler et de lutter contre une oppression systémique. Qui est le validisme, qu'on a même cité, je crois, à certains moments. Et eh bien, je voulais te demander pour toi, qu'est-ce que c'est le validisme ?
Bah, déjà, je voulais dire que le validisme, c'est un terme que j'ai connu, je crois, grâce à Compassion. Non, mais c'est vrai, j'ai fait des études de sociologie et tout, et on ne parle jamais de validisme. Donc déjà, c'est un terme que je connais depuis peu, et que j'ai connu grâce à cette démarche-là. Et je trouve ça intéressant de dire que oui, il y a tout un pan des sciences sociales qui complètement oublié cet aspect-là, quoi. Et du coup, le validisme, ce serait de, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui considère que les personnes valides sont une norme et que les personnes handicapées sont des en dehors de la norme, donc des personnes déviantes entre guillemets, quoi, si on peut dire, c'est que la société est construite sur la base des personnes valides. Et ce que je trouve intéressant à dire sur cette définition du validisme, c'est que On pourrait, tu vois, dire effectivement, bah oui, la société est validiste. Je pense qu'à peu près toutes les sociétés au monde sont validistes parce que effectivement, on est composé, enfin, majoritairement de personnes valides. Mais là où on peut être d'autant plus dans une société validiste, c'est quand que l'évolution de la société pour les personnes handicapées est conditionnée quand même aux personnes valides. Et je trouve qu'en France, on est dans ce cas-là où en fait, on va pas adapter la société, on va pas revoir notre système de pensée pour permettre aux personnes handicapées de mieux évoluer, de mieux vivre dans la société en tant que telle. Mais parce que en fait, il y a tout un tas de considérations oui, ça va servir aussi aux personnes valides. En fait, si on regarde bien l'évolution des politiques publiques ou de l'évolution par rapport au handicap, ça n'a jamais été le fruit de juste une revendication par rapport aux personnes handicapées. C'est dire, oui, ça va servir les personnes handicapées, mais ça va aussi servir les personnes âgés, les personnes avec enfants, je pense, bah là, je le dis sans le dire, mais je pense à l'accessibilité, en fait, qui est quand même peut-être la question, une des questions centrales, c'est qu'en fait, on va jamais penser l'accessibilité au regard uniquement des personnes handicapées, mais au regard aussi des personnes valides. Et c'est parce que ça va aussi servir les personnes valides qu'à un moment donné, on va dire, bon, bah, ok.
Il faut que ça profite à toutes et à tous, sinon c'est pas...
Si, c'est ça. Si ça profite que aux personnes... En fait, on a un regard très universaliste. Si ça profite que aux personnes handicapées,
vaut pas le coup.
Ça vaut pas le coup.
Mais il y a une rhétorique du collectif antiféministe et dévalideuse qui revient souvent, qui est vraiment une société construite par les personnes valides, pour les personnes valides. C'est uniquement en ce sens que les choses se font.
Je suis un peu éloigné du sujet.
Non, mais c'est vrai, et c'est des arguments en plus que même parfois... on va utiliser pour obtenir ce dont on a besoin.
Nous-mêmes.
Comme l'inclusion en entreprise, etc. Ouais, de dire ça profitera à toutes et à tous, etc.
À la société.
Alors qu'on ne devrait pas avoir à ajouter une plus-value, on devrait suffire.
Exactement.
Je te remercie pour cette précision.
C'est super, ouais, non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai que ça fait du bien de le dire.
Ouais, t'as bien raison. Est-ce qu'il y a des grandes figures de la lutte contre le validisme qui t'inspirent ? Ou tout simplement des personnalités, handicapées ou non, en lesquelles tu peux te reconnaître, qui selon toi ont fait avancer quelque chose, ou ça peut même être des gens qui ont fait un film, un contenu médiatique quel qu'il soit.
Ce que moi j'aime beaucoup, c'est sur Twitter. Je suis beaucoup de comptes Twitter, à la fois de collectifs, mais aussi de personnes qui revendiquent davantage de droits et que j'aime beaucoup lire. J'aime bien voir leur prise de position. Voilà, moi, c'est surtout par ce biais-là, moi, que j'adore Twitter, en fait.
Tu pourrais nous en citer quelques-unes ?
Des personnes ?
Ouais.
Du coup, oui, mais je pense à Anthony Aube, qui est très investi sur ces questions-là, à Céline Extenso, souvent, que j'aime bien, justement, son ton un peu coup de gueule, un peu toujours énervé, toujours en colère. Et je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir un peu cette vision-là sur, et cet état d'esprit sur les questions dont on vient de parler. Un peu en colère, quoi. Énervé, parce que
c'est
important de le dire, ouais. Être tranchant. Voilà, et c'est ce trait-là que j'aime bien chez elle.
Je comprends. Et pour finir, ce sera la dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes non sensibilisées pour tenter de se comporter au mieux auprès de personnes handicapées, ou même, je ne sais pas, au quotidien, des gens, tout simplement pour ne pas se retrouver sur Compassion, en fait.
Non, mais je trouve, on en parle beaucoup, mais effectivement, je trouve que ce n'est pas toujours évident, en fait, pour des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées à ces questions, de se positionner, de savoir comment se positionner. Je pense qu'en fait, il faut faire en fonction, c'est-à-dire que si tu connais... de ton degré de proximité avec la personne que... En fait, il faut faire comme avec tes amis. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui tu n'oserais pas poser des questions parce que vous n'êtes pas proche. Il y a des gens à qui tu es proche et avec qui tu oserais poser toute forme de questions. Ben là, je pense que c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, de but en blanc, quand tu rencontres une personne, c'est peut-être pas les premiers sujets que vous allez aborder, mais qu'après, au fil du temps, et c'est un peu ce que je disais dans mon univers professionnel, quoi. C'est après, au fil du temps, quand on se connaît, quand tu vois qu'il y a des difficultés, quand tu vois que la personne est prête aussi à en parler, bah ouais, là, tu peux commencer à poser des questions et à t'intéresser. Voilà.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voulais parler ?
Franchement, on a été assez exhaustif. Hein. Non, c'est... On a dit beaucoup de choses intéressantes.
Bah c'est top, merci.
De rien.
Je suis Kara Khan, Compassion est un podcast que je réalise. Il est diffusé sur toutes vos plateformes d'écoute. Merci à Iris Gastelu pour la production éditoriale, à Omer Abdrabo pour la musique et le mixage, et à Pauline Lenours pour l'illustration. Vous pouvez retrouver tous les témoignages de compassion sur le compte Instagram du même nom. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.